avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Nicolas Brousse.
Bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission. Dans une demi-heure, nous parlons de l'Afrique du Sud où les étrangers, tout particulièrement les Nigérians, sont la cible de violences dans les quartiers les plus défavorisés des grandes villes. Le phénomène est tel que le gouvernement du Nigeria s'en est ému, il y a une rencontre à haut niveau. L'Afrique du Sud, l'une des économies les plus puissantes du continent africain, attire du monde. Elle était considérée comme un Eldorado. Est-elle en train de se transformer en enfer? Vous êtes vous-même installé en Afrique du Sud, appelez-nous pour témoigner, nous dire si vous ressentez cette xénophobie au quotidien. Et puis, où que vous soyez, bien sûr, nous avons envie d'entendre vos commentaires et analyses. 33 9 693 693 70. appel.actu@rfi.fr. Twitter, la page Facebook de l'émission. Nous vous attendons. Et ce sont également par ces canaux que vous pouvez nous demander d'approfondir un sujet d'actualité qui a retenu votre attention. C'est ce qu'a fait Romarie Lionel qui nous appelle de Bangui en Centrafrique. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour les auditeurs de RFI.
Bienvenue, on vous écoute pour vos questions.
Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a fini sa tournée internationale en se rendant en France pour rencontrer son homologue français, François Hollande. Quelle relation entretient la France et la Centrafrique?
On va demander tout ça à notre envoyé spécial en RCA, Pierre Pinto. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Alors c'est vrai que l'opération Sangaris s'est terminée il y a 5 mois. A priori, les relations entre la France et la RCA sont toujours très bonnes. Romarie Lionel se demandait aussi ce que pouvait faire la France maintenant pour continuer d'aider la RCA.
Alors c'est vrai que la France l'a répété hein, par la voix de Jean-Yves Le Drian en retirant ses militaires fin octobre. Elle restera le porte-voix de la Centrafrique dans les grandes institutions internationales, à commencer donc par le Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la France, je le rappelle, est membre permanent. La France a promis et promet systématiquement de tout faire pour appuyer les autorités centrafricaines issues des élections de l'an dernier, dans leur projet notamment de redressement, de développement du pays, et de consolider ces autorités légitimes. La France, par exemple, mobilise les bailleurs de fonds internationaux pour qu'ils concrétisent les promesses de financement faites à Bruxelles fin novembre. Pour rappel, 2,2 milliards de dollars pour le développement du pays. L'Agence française de développement doit d'ailleurs investir 100 millions d'euros sur 3 ans. L'enveloppe a été accrue, notons-le, lors de la rencontre Hollande-Touadéra lundi. Globalement, la France coopère avec la Centrafrique dans de très nombreux domaines. Sur le plan militaire, si Paris a retiré l'opération Sangaris, la France a laissé environ 200 soldats sur place à Bangui au cas où et peut faire intervenir son aviation qui est basée à N'Djamena, si la MINUSCA en a besoin. La France se dit prête aussi à faire en sorte que le programme européen EUTM, qui forme les forces armées centrafricaines, accélère la cadence, comme l'a demandé formellement Bangui. Donc, beaucoup de soutien financier, politique, militaire, etc. Il y a toutefois un point de divergence de taille. La France s'oppose par exemple à la levée de l'embargo sur les armes qui pèsent sur la Centrafrique, comme le demande pourtant Bangui, mais ça n'a pas bougé pour l'instant.
Alors la France n'est pas le monde entier. Pierre, vous restez en ligne avec nous puisque Romarie Lionel, notre auditeur, avait une autre question pour vous.
Oui, la seconde question, le président centrafricain a tenu le discours devant le Conseil des Nations Unies en plaidant pour son pays. Y a-t-il des décisions qui ont été prises pour alléger un peu la situation de l'insécurité qui persiste encore dans l'arrière-pays de la RC?
Pierre Pinto, vous qui êtes en direct de Bangui également, effectivement, comment améliorer la situation sécuritaire en Centrafrique? Vous le disiez, hein, Pierre, la Centrafrique, pour l'instant, a une armée réduite à sa plus simple expression.
Alors, il n'y a pas eu de vote de résolution hein, aux Nations Unies après le discours de Faustin Archange Touadéra, ça viendra peut-être plus tard. À New York, le président centrafricain a évoqué d'ailleurs cet embargo dont je parlais il y a quelques instants sur les armes qui pèsent sur son pays et qui empêche, selon lui, le gouvernement centrafricain d'équiper ses militaires. Il en demande donc la levée, Mais la France, comme je vous le disais, s'y oppose et rappelle que cet embargo vise surtout à empêcher les groupes armés de se doter d'armes. Par conséquent, que le gouvernement centrafricain, lui, peut faire une demande d'exemption, c'est-à-dire une étape administrative supplémentaire qui lui permettrait d'équiper ses forces qui sont en cours de formation. Ensuite, il y a la question des sanctions. On peut imaginer que la liste des personnes sanctionnées en Centrafrique soit allongée après le passage de Foster-Archange Touadéra à New York. On verra ça dans les semaines, les mois qui viennent. En tout cas, le président centrafricain s'est entretenu avec le président du comité des sanctions. Et puis cette visite à New York relevait davantage d'un briefing sur la situation de la Centrafrique et sur les actions entreprises par le gouvernement pour restaurer l'autorité de l'État dans le pays, en particulier à Bambari ces dernières semaines, et sur son programme de relèvement et de développement du pays avec l'aide des Nations Unies et de la communauté internationale. Voilà, sur le plan sécuritaire, rien de nouveau, la MINUSCA est toujours sur place avec 12 000 hommes, 12 000 militaires, et là pour sécuriser et protéger les populations civiles. Donc pas d'annonce nouvelle à ce niveau-là, si ce n'est donc, comme je le disais tout à l'heure, une accélération de la cadence de formation des FACA, les forces armées centrafricaines, par le programme européen EUTM. C'est en tout cas là-dessus que la France va pousser pour qu'on ait plusieurs centaines de FACA formés et opérationnels d'ici la fin de l'année, qui puisse être déployé sur le terrain pour aider la MINUSCA à sécuriser le pays.
Pierre Pinto, envoyé spécial de RFI en Centrafrique, qui répondait à Romarie Lionel, tous deux en direct de Bangui. Sans plus attendre, nous allons accueillir Freddy qui nous appelle de Brazzaville. Bonjour Freddy.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue, vous avez des questions concernant la Libye.
Exactement, il y a trois questions.
On vous écoute, alors, les deux premières en tout cas.
Alors, mardi dernier, nous avons appris que les troupes du général Haftar ont repris le croissant pétrolier. Alors j'aimerais savoir quel impact cela pourra avoir sur la lutte contre l'État islamique. Et aussi, nous avons constaté que les troupes russes sont basées en Égypte. Alors je voudrais avoir un point sur l'implication de la communauté internationale dans ce conflit.
Eh bien,
voilà un peu les deux premières questions.
Ce point, c'est Ouda Ibrahim du service Afrique de RFI qui va le faire avec nous. Bonjour Ouda.
Oui, bonjour Nicolas et bonjour Freddy.
Vous suivez ce dossier libyen pour nous. Alors c'est vrai que les forces du Maréchal Haftar ont repris l'avantage dans cette région très importante qui est le croissant pétrolier face à celles qu'on appelle les brigades de défense de Benghazi, a priori plus proches d'Al-Qaïda. Alors est-ce que c'est une véritable victoire pour le Maréchal Général Haftar ?
Pour l'instant, car dans ce désert, cet espace très étendu, nul ne peut avoir le pouvoir pendant longtemps. Il n'y a pas de ville, il n'y a que des centres. Il y a une petite ville à Ras Lanouf et à Soudra, c'est juste les institutions du pétrole. Donc c'est vraiment une nature qui n'est pas accueillante. Et donc c'est pour ça que depuis 2011, on a vu cette guerre de pétrole continuer, et à chaque fois il y a quelqu'un qui met la main dessus. En septembre dernier, c'était Haftar qui est venu chasser une autre milice qui était là. Le 7 mars, on a vu les brigades venir, et à nouveau Haftar ces derniers jours conquérir à nouveau ces champs de pétrole. Alors pour rappeler des faits pour la Libye constitue en Afrique aujourd'hui le premier réserve de pétrole, 44 milliards de barils. C'est énorme. Et donc, c'est un pétrole convoité non seulement par les partis libyens qui sont en guerre, mais aussi par les Occidentaux. Et rappelons un fait, la France, en 2011, au mois d'avril, après la décision des Nations Unies, a signé un accord avec le CNT à l'époque, le Conseil National Transitoire, un accord qui n'a jamais été appliqué, pour que 35% du pétrole libyen transite vers la France. Bien sûr, après, le CNT n'existait plus et l'accord n'a pas été appliqué. Donc, le pétrole, c'est une guerre dans la guerre en Libye, et c'est aussi convoité par tout le monde. Alors, pour répondre à la deuxième partie de la question,
est-ce que les Russes peuvent soutenir ou soutiennent déjà les troupes du général Haftar ?
C'est ce qu'on dit, on n'a pas de preuves matérielles. Bien sûr que les Russes existent en Égypte, et en Égypte en tant qu'experts. Il y a même une base militaire qui existe là, même si les Russes le nient actuellement. Et puis, on a eu confirmation comme quoi en Libye, il y a aussi des experts, mais c'est des sociétés privées, des sociétés sécuritaires russes comme les sociétés américaines qui ont envoyé des dizaines d'hommes en Libye pour réparer les avions, pour retirer les mines, parce qu'il y a énormément de mines aujourd'hui dans toutes les villes de l'est de la Libye. Et pour arriver à la troisième partie de la question concernant le pouvoir en Libye, est-ce que le pétrole sert à quelque chose? Oui, bien sûr, parce que celui qui a les champs pétroliers, qui possède le contrôle sur les champs pétroliers, est le plus fort en Libye, et la communauté internationale doit obligatoirement traiter avec lui. C'est le cas de Haftar aujourd'hui à nouveau.
Donc l'argent reste comme souvent le nerf de la guerre. Est-ce que ça veut dire quand même que pour répondre à la question de Freddy, l'État islamique a perdu une source de financement?
Bien sûr. Depuis le début, on sait qu'en Syrie, en Irak, comme en Libye, l'État islamique s'appuyait sur les ressources qui venaient du pétrole pour se financer, s'autofinancer, et aujourd'hui, effectivement, elle a perdu ces secteurs-là. Par contre, c'est devenu un symbole qui donne la clé de pouvoir en Libye. Et je rajoute juste une petite chose, c'est qu'aujourd'hui, on est en Libye devant un danger qui n'a jamais été réel jusqu'à maintenant. C'est la division de la National Oil Company, la NOC,
la société nationale pétrolière libyenne.
Exactement. Qui avait une partie à Benghazi, une partie à Tripoli, et le Jean de l'Est, dirigé par Haftar et le Parlement libyen, menace aujourd'hui de vraiment garder l'argent du pétrole libyen à l'est du pays à cause de ce qui s'est passé avec les brigades de défense de Benghazi récemment.
Merci beaucoup Ouda Ibrahim du service Afrique de RFI. Freddy, je crois qu'on a déjà répondu à votre troisième question. Vous êtes satisfait par ces réponses?
C'était sur l'importance, oui, c'est sur l'importance du croissant pétrolier.
Voilà.
L'enjeu, quoi.
Voilà. Ouda, devance vos désirs. Merci beaucoup, Freddy, de nous avoir appelé de Brazzaville. On va tout de suite accueillir René, qui est à Bertoua, au Cameroun. Bonjour, René.
Bonjour, Nicolas.
Alors, vous vous intéressez à la situation en Asie?
Tout à fait. Bonjour à tous les auditeurs de RFI. J'ai appris par la Radio Mondiale que le chef de la diplomatie américaine a effectué une tournée en Asie à l'effet de répondre à la volonté de Pékin de relancer les négociations à 6 dans la Russie, le Japon, la Corée du Nord, les États-Unis, la Corée du Sud au sujet de la crise nord-coréenne. Alors, ma première question est celle de savoir quelles sont les conditions à l'état actuel des choses de relance de ces négociations.
Eh bien, pour vous répondre, nous allons accueillir Valérie Niquet. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Vous êtes maître de recherche responsable du Pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Alors, c'est vrai que Rex Tillerson, le nouveau secrétaire d'État américain, a fait cette tournée en Asie. On a beaucoup parlé de Pyongyang. Les États-Unis ont dit que c'était la fin de la politique de la patience stratégique. Ça veut dire qu'a priori, on n'est pas franchement dans une nouvelle phase de négociation?
Alors, on n'est pas dans une nouvelle phase de négociation. Alors, les Chinois eux-mêmes, d'ailleurs, ont assez peu d'espoir sur la possibilité de reprendre ces négociations en intégrant à la fois la Corée du Nord, les États-Unis et la Corée du Sud. Ils aimeraient peut-être éventuellement organiser des négociations dans un format plus petit qui permettrait d'aborder la question de la tension dans la péninsule coréenne autour du programme nucléaire nord-coréen. Ce que voudrait surtout Pékin, en fait, et ce qu'ils ont essayé de vendre aux Américains, mais sans succès, en dépit de la visite de Tillerson, c'est l'idée que les Américains arrêtent de procéder à des manœuvres militaires qu'ils organisent tous les ans avec la Corée du Sud dans le cadre de l'alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis qui existe depuis plus de 40 ans. Donc il y a des manœuvres régulièrement pour unir le travail des deux forces de défense. Les Chinois voudraient que les États-Unis et la Corée du Sud arrêtent ces manœuvres, que les États-Unis, surtout c'est le point le plus important pour Pékin, ne déploient pas en Corée du Sud un nouveau système antimissile que Pékin rejette absolument.
Ce qu'on appelle le TAD, hein, c'est ça, le système de bouclier antimissile.
Voilà, le TAD, et en échange, Pékin demande en quelque sorte à la Corée du Nord de geler ses capacités nucléaires, ce qui n'est absolument pas ce qui était l'objectif du dialogue à 6, puisque le dialogue à 6, ça n'était pas le gel et le maintien des capacités actuelles de la Corée du Nord, mais bien le démantèlement des capacités nucléaires de la Corée du Nord, et ça, ni la Corée du Nord Nord, la Corée du Nord en tout cas, ne veut pas en entendre parler. Et Pékin n'est pas prêt de toute manière à aller aussi loin qu'il faudrait dans les pressions qu'elle exerce sur Pyongyang pour aboutir à vraiment un changement de position du régime nord-coréen.
Valérie Niquet, notre auditeur René avait une autre question. Je vous demanderai d'y répondre le plus rapidement possible. On a évoqué, Rex Tillerson en tout cas, à un moment a évoqué de possibles actions militaires contre la Corée du Nord si Pyongyang allait trop loin. Est-ce que pour vous c'est une option véritablement envisageable? On déclenche une guerre nucléaire en Asie?
Alors une guerre nucléaire, je ne sais pas s'il y avait vraiment une menace directe de lancement d'un missile nord-coréen qui viserait soit le Japon, soit la Corée, soit le territoire américain quand ils en auront la possibilité. Évidemment, on ne peut pas exclure une riposte militaire de la part des États-Unis, mais c'est vrai qu'une frappe préventive contre les installations nucléaires nord-coréennes serait peut-être pas suffisamment efficace et aurait des conséquences dramatiques, notamment pour la Corée du Sud qui est directement sous la cible des forces d'artillerie nord-coréennes qui sont, elles, très proches de la capitale sud-coréenne.
Merci beaucoup Valérie Niquet, responsable du Pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Merci d'avoir répondu à René qui nous appelait de Bertoua. Il nous reste quelques minutes pour accueillir Mohamed qui nous appelle de la capitale française, Paris. Bonjour Mohamed.
Bonjour Monsieur Nicolas.
Bienvenue, vous avez des questions alors sur le football malien.
Oui, la FIFA vient de suspendre la Fédération malienne de football. Je voulais savoir pourquoi cette suspension et quelle a été la réaction du gouvernement malien à la suspension de la Fédération malienne de football, d'autant plus que la vie de tous les Maliens dépend aujourd'hui du football au Mali.
Alors c'est Eric Chorin du service des sports de RFI qui va vous répondre. Bonjour Eric.
Bonjour Nicolas, bonjour Mohamed.
Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette fédération malienne pour qu'on arrive à une suspension de la FIFA?
Eh bien écoutez, la décision prise par la FIFA, hein, par le biais d'un courrier cinglant envoyé par la secrétaire générale sénégalaise de la FIFA, Fatma Samoura, fait suite à la décision prise par le ministre des sports malien le 8 mars dernier de dissoudre le comité exécutif de la fédération malienne. De football, la FEMAFOOT, c'est déjà arrivé par le passé dans d'autres fédérations, ingérence politique et du coup réaction de la FIFA qui ne l'accepte pas. Ils avaient nommé au Mali, ils avaient fait un pas en arrière à un moment, mais ils ont finalement nommé un comité de normalisation qui est dirigé par le banquier Sidi Diallo, mais ça la FIFA ne l'accepte pas. Pour elle, le président régulièrement élu Boubacar Baba Diarra en octobre 2013 est toujours le président de la Fédération malienne de football. Elle a donc décidé immédiatement de suspendre la Fédération malienne de football. Ça a eu pour conséquence quand même de priver deux clubs maliens, le Djoliba et le 11 créateur de club de Bamako, du match retour de Coupe de la Confédération, alors qu'ils avaient remporté le match aller. Ils sont aujourd'hui éliminés. Et il y a d'autres échéances qui vont intervenir.
Il y a de grosses échéances.
De grosses échéances. La CAN des moins de 17 ans qui commence le 21 mai au Gabon. Le Mali est qualifié. Il y a ensuite la première journée d'éliminatoire de la CAN 2019 début juin et le premier tour des éliminatoires du CHAN mi-juillet. Rappelons quand même qu'ils sont les Maliens, je voulais le rappeler, la CAN des moins de 17 ans, ils sont quand même champions du monde en titre. Et puis il y aura en août la troisième journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018. Et il va falloir donc que ça avance, mais pour l'heure, et c'était sur RFI hier, Sidi Diallo, le président de ce comité de normalisation, disait dans Radio Foot International sur RFI qu'il n'avait pas l'intention de revenir en arrière. Ils ont l'air de vouloir entamer le bras de fer avec la Fédération internationale de football, qui a, il est vrai, un nouveau président, Gianni Infantino, depuis peu. Alors peut-être qu'il y a des espérances que ça évolue, mais ça paraît un petit peu compliqué. Il plaide, Sidi Diallo, pour une solution malienne qui consiste à mettre en avant le fait que en Afrique, c'est pas comme en Europe, il y a nécessité pour les gouvernements d'intervenir dans le fonctionnement des fédérations, ce que la FIFA n'a encore jamais accepté à ce jour. La situation serait différente, notamment en raison de la gestion financière de cette fédération et de la situation politique dans le pays. On va voir quelles conséquences ça va avoir. On a du mal à imaginer la FIFA reculer même avec un nouveau président.
Merci beaucoup Eric Chorin et Mohamed. Je vous invite à réécouter Radio Foot International sur RFI.fr. On marque une pause et on revient pour le débat.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.
Priorité santé. Claire Hédon, vous